Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et salut tout le monde! Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Salut mon Pierre.
Salut ma Lolo, comment tu vas?
Bah nickel, bonjour
mon
Gaspard.
Bonjour à tous.
C'est bien.
Moi je reviens de Reims où j'ai été passer deux jours sur mon diplôme universitaire journaliste du vin. On a fait des cours exceptionnels avec des gens exceptionnels et pas que sur le vin, aussi sur la recherche, sur la vigne, c'était passionnant. Mais tu me connais,
oui.
J'ai quand même dégusté quelques Bollinger année 2008 avec modération, mais
et
c'était sublimissime.
On a un studio ce matin, il est plein à craquer. Hein.
Allez, on y va, le programme de notre rendez-vous. Nous allons dans quelques instants évoquer les conséquences du coronavirus juste après le journal de Gaspard sur les ventes constructeurs français, mais aussi sur le service après-vente parce que vous n'êtes pas à l'abri de ne pas pouvoir faire réparer votre voiture, on vous dira tout. Et puis, une belle surprise que tu nous emmènes, mon Pierre.
Moi ? Une surprise ?
Oui, le jeune homme qui est à tes côtés.
Ouais, un blogueur, ça change un peu. Et puis on va parler avec lui, on va parler d'un sujet qui vous touche tous, c'est le gravage des vitres. À quoi ça sert ? C'est une bonne solution le gravage pour retrouver une voiture ? Ça paraît comme ça. Ouais, ça paraît. Moi,
la
je vous
sécurité, dire. On verra effectivement ouais. si ça nous protège de vol ou autre ou de récupérer notre voiture. Et puis on aura le plaisir de recevoir François Alain, c'est Monsieur Vintage Mécanique sur RMC le lundi soir. Et François Alain a été élu animateur concernant les voitures préférées des Français. Voilà, le spécialiste média auto préféré des Français. C'est génial, hein? Et bien, il sera avec nous de midi à midi et demi.
Ouais, c'est parce qu'on était hors concours, sinon. Bah ouais.
Et puis, on partira du côté de Reims. C'est pas simplement pour parler de la champagne et de vin en général, mais parce que Reims est une grande, grande métropole, une grande ville qui adore la bagnole. Il y a les fameux 12 heures de Reims. Et là, il y a une exposition de Gueudin, une exposition de malades qui se joue actuellement, donc on en parlera en direct.
C'est un demi Le Mans, quoi.
Ouais, mais c'est beau quand même.
Les 12 heures de Reims, c'est la moitié du Mans.
Allez, c'est parti, tout de suite, le journal de Gaspard.
À l'approche du premier tour des élections municipales, Caradisiac, site spécialisé sur l'automobile, a commandé un sondage sur les intentions de vote des automobilistes parisiens. Premier renseignement, le rapport de force entre les deux principales candidates Anne Hidalgo et Rachida Dati n'évolue pas. La candidate LR demeure en tête des intentions de vote au premier tour et elle accroît même de façon sensible son avance. 31% des automobilistes parisiens votent pour elle. Le fait que Rachida Dati souligne régulièrement le caractère embouteillé de la capitale trouve un écho favorable auprès des conducteurs électeurs. Pour autant, et cela ne manque pas de surprendre, la maire sortante reste solidement ancrée en deuxième position, rassemblant 21% des intentions de vote des automobilistes. Anne Hidalgo ne perd que 3 points par rapport au vote global et possède un SOG électorable stable. Pierre, vous y croyez, une défaite d'Anne Hidalgo où les bobos écolos auront raison de vous?
Mais tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Tout peut arriver. Non, franchement, j'ai l'impression... Moi, je vous dis franchement, je trouve que Rachida Dati, elle va pas assez loin. En fait, Rachida, faut qu'elle aille à la défense de l'automobiliste pour marquer son opposition politique à Anne Hidalgo. Pour l'instant, tout ça, c'est timide. Et tant qu'il y aura de la timidité dans le discours politique, parce qu'on n'ose pas défendre quelqu'un qui est dans sa voiture, bah, ça marchera pas. Donc, je m'inquiète pour elle et je me dis qu'attention, Anne Hidalgo a toutes ses chances, hein.
En cette période de campagne pour les municipales, la question de la mobilité est au cœur des préoccupations des Français, surtout dans les grandes villes. Quelles sont réellement les préoccupations des Français au niveau local? Le CNPA a digilanté un sondage avec Harris Interactive dont les résultats sont encore une fois favorables à l'auto. La voiture occupe toujours une place prépondérante dans la vie des Français. Selon l'étude, elle reste le premier moyen de transport utilisé au quotidien. Pour 51% des sondés, elle est tout simplement incontournable et ne constitue pas un choix. Elle est le premier moyen utilisé pour faire ses courses, rendre visite à ses proches, aller travailler ou effectuer des activités de loisirs. Les habitants des grandes villes y recourent logiquement moins souvent, mais dans les communes proches des grandes villes et en zone rurale, ce sont respectivement 82 et 88% des personnes interrogées qui utilisent la voiture pour aller faire leurs emplettes. Mais le chiffre fort à tirer de ce résultat est celui-ci. En moyenne, 66% des Français ont le sentiment qu'ils seraient isolés sur leur voiture, il n'y a pas de lésion. Un chiffre qui cache une nouvelle fois des disparités avec les zones rurales puisqu'il grimpe à 83%, le signe pour ceux qui en doutaient encore d'une vraie facture entre ces dernières et les grandes villes. D'ailleurs, dans ces dernières, les sondés estiment à 80% que l'offre de transport en commun est efficace, 29% seulement en zone rurale, Pierre.
Ça, c'est un scoop, François Roudier.
Ouais, c'est sûr. Voilà, on découvre que d'un seul coup, la voiture permet de vivre. Donc,
François Roudier.
N'oubliez pas la fable de La Fontaine. la mobilité des villes et l'automobile des champs.
Voilà, directeur de la communication du CCFA, le comité des constructeurs français de l'auto.
Ouais,
mais là, on est en fausse des portes ouvertes, mais le sondage est important. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même tendance à trop oublier qu'on monte tous dans une voiture à un moment donné. Et alors, ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, je parle à des bobos écolos un peu fondamentalistes. Et je leur dis, mais pourquoi t'en as pris la voiture ? Tu montes dedans ? Et ils me répondent, oui. Mais moi, je l'utilise que quand j'en ai besoin. Bah oui, bah comme tout le monde, quoi, en fait. Tout dépend d'où tu places le curseur. En fait, on est tous pareils. Quand on a besoin d'être dedans, on la prend, voilà.
La voiture.
Bah oui.
La Fédération nationale des auto-entrepreneurs a dénoncé avant-hier la décision de la Cour de cassation de requalifier en contrat de travail le lien entre Uber et un de ses anciens chauffeurs, estimant qu'elle allait nuire à l'économie des plateformes. Cette décision risque de mettre en péril plus de 180 plateformes qui existent en France dans tous les domaines et qui ont fait travailler 280 000 personnes au moins une fois en 2019. C'est en tout cas ce que nous explique Grégoire Leclerc, président de la FNAE. Pierre, la Cour de cassation estime que le lien de subordination entre le chauffeur et Uber est caractérisé lors de la connexion à la plateforme et que le conducteur ne doit pas être considéré comme un travailleur indépendant mais comme un salarié. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Tu m'as perdu. Non, trêve de plaisanterie. Bon, on voit bien, tiens. De toute façon, à la base, il y a quoi ? Il y a une espèce d'opposition entre les taxis d'un côté et les chauffeurs privés de l'autre qui se développe. Aujourd'hui, moi, je donne juste un constat. À force d'embêter aussi beaucoup du côté des chauffeurs privés, on se retrouve avec des soirées qui se terminent à 1h ou 2h du matin et vous ne trouvez pas un seul taxi et vous ne trouvez pas un seul chauffeur privé. C'est l'histoire de quelqu'un qui a passé une soirée hier.
Une belle soirée en tout cas, je vous souhaite aussi pour vous ce week-end, puisque ça y est, nous sommes le week-end et merci d'écouter Sud Radio le week-end aussi. À suivre dans quelques instants, nous allons faire un point sur l'effet et les conséquences coronavirus sur le monde de l'auto à la française. J'entends par là, allez-vous recevoir prochainement la voiture que vous avez commandée chez un des constructeurs français ? Qu'en est-il ? Et si vous avez besoin de faire une réparation sur votre voiture, est-ce que les pièces qui sont essentiellement faites en Chine vont arriver à temps pour qu'on répare votre voiture ? Voilà des conséquences auxquelles on ne pense pas tout de suite. Et pourtant, elles sont là. On en parle en détail avec nos deux invités, François Roudier, directeur de la communication du CCFA, et notre ami Fabrice Godefroy, qui est le directeur de chez IDLP, spécialisé, donc, puisque c'est une société d'équipement, en fait, hein, d'outils, de vente, d'après-vente, un équipementier, quoi. Celui qui peut réparer vos freins ou changer la courroie de distrib ou des choses comme ça, quoi. Allez, à tout de suite.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Pam, pam, pam. Et oui, effectivement, vous le savez, le coronavirus, je ne vous apprends rien, prend toute l'actualité. Et avec Pierre et avec Gaspard, eh bien nous, on s'est posé la question de savoir ce qui se passait pour nos constructeurs français, puisque nombre quand même d'usines chinoises fournissent des choses, ou des voitures, ou des pièces détachées.
Ouais. Et puis Fabrice Godefroy, de son côté, pareil, qui est le numéro 1 de la pièce auto de rechange indépendante en France. Même topo, on a juste envie de savoir, parce qu'on a tout lu et tout entendu là-dessus, sur la pénurie potentielle des pièces ou des autos, Maloulou.
Exactement. Alors on va commencer par les voitures neuves, si tu veux bien.
Oui.
Parce que c'est ainsi qu'avec François, on s'est dit, est-ce que si moi j'ai par exemple commandé une voiture neuve française, qui normalement est prévue pour arriver genre mi-avril, fin avril, est-ce que je vais la recevoir ou est-ce que c'est bloqué où sont faites les voitures ?
Alors, on a une chance sur les voitures, les constructeurs français. Hein. Je parlerai pas de nos amis coréens qui, eux, ont un très gros problème sur la livraison. Mais les voitures françaises sont essentiellement faites dans la région Europe, en Europe. Vous savez, les voitures, c'est régional. Hein. On en fait en Asie pour l'Asie, aux États-Unis pour l'Amérique du Nord et au Mexique, et en Europe pour l'Europe.
Il y a une certaine cohérence quand même.
Il y a une cohérence parce que transporter du vide, ça coûte cher. Hein. Donc on préfère que tout ça soit le plus proche du client. Donc on a eu, pour nos amis de Renault et de PSA, des fermetures d'usines à Wuhan, parce que justement c'est dans le centre de l'épidémie. Les salariés ont été rapatriés en France, il n'y avait pas de problème d'ailleurs, ils vont bien. Et puis, on devait rouvrir la semaine prochaine, donc la semaine qui arrive.
Oui, c'est ce qu'a dit Carlos Tavares, il a dit 11 mars.
Mais c'est pas sûr. Parce que vous avez aussi un problème de base, c'est que vous n'avez pas les salariés. Les salariés chinois, ils sont restés chez eux.
Ouais.
Vous manque 3 personnes sur la chaîne, vu qu'on est en juste à temps et en serré, c'est pas facile. Ça, c'est le problème, vous voyez, en Chine.
Ouais.
Donc, les livraisons de voitures, on n'a pas beaucoup de voitures qui sont faites en Asie, j'élargirais, en Asie et qui arrivent pour les constructeurs français de Chine ou de Corée. Il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas de problème. Parce qu'on est sur un système où les bateaux sont déjà partis. L'essentiel des voitures passe par bateau. Oui. Et les bateaux, ils sont partis il y a un mois.
Ça roule ou ça coule.
Voilà, ils sont partis il y a un mois et ils sont arrivés pour certains ou d'autres vont arriver. Le problème, c'est après. C'est que les autres bateaux ne sont pas partis. Donc, on va avoir un vrai problème sur ces livraisons.
Et en même temps, François, j'ai regardé un petit peu les volumes de vente. Il y a un effet direct. Hein. Tu as vu dans l'Oise, il n'y a pas de commande d'auto.
Attention, ça c'est le troisième effet. Vous avez l'effet sur les pièces. Les pièces, on a des pièces chinoises qui arrivent.
Mais on va en parler avec
Fabrice. Les pièces, vous savez, pour une voiture neuve européenne, les pièces chinoises, c'est à peu près 300 euros de pièces. C'est pas beaucoup, hein. Mais une voiture, on la sort quand elle est à 100% prête.
Alors, attendez, pour que ce soit bien clair. François, que ce soit bien clair.
Pour une voiture neuve,
française,
de fabrication.
Française. Peugeot, Citroën,
française,
DS,
européenne,
Renault,
vous avez quasiment le, voilà, vous avez quasiment
le
même.
300 euros de pièces chinoises dans la création d'une voiture neuve.
Dans la voiture
européenne.
Que vous achetez. Okay. Voilà. Autour de 15 000 euros.
Okay. Hein.
On a de la chance.
On est
moins utilisateurs de pièces chinoises.
Oui, mais
les Américains, c'est 40%.
François, on a quand même beaucoup parlé des GPS, de la nouvelle.
Mais oui, mais s'il vous manque un peu. Justement,
Fiat est embêté.
On peut pas livrer la bagnole s'il manque un.
Mais c'est ça.
S'il y a un trou dans le.
Alors là, concrètement,
attention, parce que vous avez le virus, ce sympathique virus. Non seulement il est en Chine, mais il se retrouve aussi dans d'autres pays, en particulier en Italie.
Et en France.
Donc on a eu un problème avec un fournisseur MTA qui fournit des Fiat et d'autres modèles qui sont faits en partenariat avec PSA. Où on savait pas, la boîte était fermée. Bon, elle a été rouverte, on a ressorti des pièces, etc. Ça, c'est vraiment le point industriel.
Concrètement, avant de parler des pièces détachées, réparation de nos futures voitures, ceux qui nous écoutent, qui ont commandé une voiture française neuve, n'ont pas d'inquiétude à se faire pour l'instant.
Je ne le dirai pas. Parce que peut-être que la voiture, elle va être réceptionnée à la concession automobile.
Ah.
Mais qu'est-ce qui vous dit qu'en stade 3, la préfecture ne va pas fermer la concession automobile où les gens vont être malades.
Okay.
Et donc là, on est dans un problème. Où on a, le dernier, c'est le problème français.
Alors, maintenant, pour les pièces détachées. T'as besoin de faire réparer ta voiture, toi, t'as une petite banque, toi ?
Non, ça va, pour une fois, elle roule, donc, donc je suis plutôt content. Mais effectivement, je me mets à la place de celui qui a besoin de changer une pièce. Est-ce qu'il y a un impact ? Je suis allé chez Fabrice Godefroy une fois, alors faut vous imaginer,
IDLP, ouais.
c'est le IKEA puissance 1000 de la pièce auto. Non mais c'est vraiment ça, hein, tu arrives.
On peut pas lui acheter directement, vous fournissez
les professionnels.
Et dans ce IKEA de la pièce auto qui a toutes les grandes marques, eh bien, à l'intérieur, il faut que tu sois en capacité de fournir toutes les pièces auto de France.
250 000 références stockées, livrées 4 fois par jour en Île-de-France.
Crâneur.
Et donc là, est-ce qu'il en manque ?
Alors, je vais répondre.
Est-ce que je peux faire réparer ma voiture ?
Jusqu'ici, tout va bien. Parce que il y a l'inertie du stock qui est donc chez les équipementiers, l'inertie du stock des distributeurs qui ont encore du stock, mais on sait très bien qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un trou d'air, c'est une évidence. Et à mon avis, il y aura un trou d'air à la fois pour la prévente, pour la pièce, mais à mon avis aussi pour la fabrication. Alors peut-être pas chez les constructeurs directement, mais les sous-traitants, les équipementiers. Mmh. Parce que les équipementiers fabriquent des pièces, évidemment, aussi en Chine, et les fournisseurs des équipementiers, c'est-à-dire les composants même de la fabrication des pièces, sont fabriqués aussi en Chine. On estime, on voit des chiffres qui sont en train de circuler actuellement dans notre métier et dans les articles de notre métier, ça représente à peu près 40% pour la Chine. Donc c'est très important. Donc on sait qu'à un moment ou un autre, ça va coincer. Et là, pareil, je rebondis sur l'Italie. L'Italie est un gros fabricant aussi de pièces détachées. Donc on sait qu'il va y avoir un trou d'air. Pas actuellement, mais même si demain ça repartait, de toute façon, il y aurait aussi un autre problème, c'est il y a aussi la livraison. On sait que l'affrètement au niveau maritime, il faut entre 4 à 6 semaines pour relivrer les pièces.
Donc
tombez
pas en panne, les amis.
À un moment, il va y avoir un trou d'air, c'est une évidence.
Mais donc moi, ma DS, je suis mal là, elle tombe en panne tout le temps.
Ce qui est rare est cher. Est-ce que le fait que les pièces auto soient raréfiées va faire augmenter les prix de la réparation ?
Alors, je pense qu'il va y avoir deux phénomènes. Il y a les produits de grande vente, je pense qu'on arrivera à trouver des alternatives. Des plaquettes de frein, de la filtration, on arrivera à trouver des alternatives parce qu'il y a plusieurs fournisseurs. Ce qui risque de poser un problème, c'est tout ce qui est pièces techniques captives qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et là, il suffit qu'un boulon, un injecteur soit bloqué quelque part et ça bloque toute une chaîne. Donc, c'est un effet domino sur la prévente, mais aussi, à mon avis, sur la fabrication. Et ça, on va bientôt l'avoir, j'en suis persuadé.
Est-ce que la crise du coronavirus, médicale et ou économique, comme on est en train de la supporter, de la porter, va permettre aux constructeurs français, voire même aux équipementiers, de réfléchir sur le plan B, c'est-à-dire que peut-être ne plus être totalement enchaîné à la Chine. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées dans vos métiers actuellement de relocaliser, par exemple, certaines fabrications?
C'est un crash test, quoi, le coronavirus.
Ouais, ouais, on l'avait déjà un peu vécu avec l'affaire de Fukushima. Si vous vous souvenez bien, on avait découvert qu'il y avait une entreprise qui faisait de la peinture pour voitures, qui était à 3 km de la centrale de Fukushima. C'était la seule au monde. Donc, il n'y avait pas une bagnole qui sortant d'une peinture dont j'ai oublié la couleur. Donc là, il y a eu une réflexion dans toutes les directions pièces des constructeurs, pas seulement que chez nous, pour se dire, attention, on va peut-être essayer de mettre un double sourcing et vérifier que nos équipementiers ont eux aussi un double sourcing au cas où. Voilà. Alors c'est pas partout. Et le problème, c'est que vous avez des petites pièces. Vous avez par exemple tout ce qu'on appelle les CPU, donc les mini ordinateurs dans une voiture. Il y en a 50, voire 100, 300. Ces petits trucs-là ont des pièces chinoises. On ne le sait pas forcément. Si, et même l'industriel, le gros Valeo, le gros Faurecia qui va intégrer tout ça, peut-être qu'il ne sait pas que son fournisseur de rang XZ va avoir cette petite pièce. Donc, alors, les gabos, je peux vous dire que depuis le lancement du coronavirus, ils n'ont pas pris trop de vacances et de RTT dans les directions pièces des constructeurs. Mais le risque peut se trouver là. S'il vous manque une pièce sur une voiture, elle ne peut pas sortir de chaîne.
Fabrice Godefroy, auprès d'IDLP, soyez transparent, parlons vrai sur Sud Radio. Vous faites appel à de la construction, ça se fait en Chine les appareils ou vous avez d'autres usines un peu partout?
Alors nous, nos fournisseurs équipementiers, quelquefois en plus c'est assez vicieux parce qu'on ne le sait pas véritablement, quelquefois on peut avoir un Made in Europe parce que l'assemblage a été fait en Europe, mais quelquefois il y a une pièce qui peut être fabriquée en Chine. Donc vraiment c'est une problématique, on n'a pas une visibilité excellente là-dessus. Et alors on a des informations, parce que les équipementiers évidemment font aussi des études très précises actuellement et nous informent régulièrement. Mais on sait très bien qu'il y a un danger. Et je rebondis sur le côté écologique. C'est vrai qu'on peut se poser la question au niveau écologique de savoir si c'est très bien qu'une pièce fasse le tour du monde arriver en Europe pour fabriquer. Donc il faut peut-être se remettre en question, effectivement, pour la sécurité, parce qu'on a donné trop d'importance au niveau de la Chine. Et ça, c'est vraiment l'occasion de le faire. Mais au niveau écologique aussi.
Question. On voit, t'as vu Pierre, il y a de plus en plus de gens qui vont faire des grandes courses. Les rayons sont vides de conserves, de pâtes, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui écoutent Sud Radio, calmez-vous, n'allez pas faire réparer plus tôt que prévu votre voiture, n'allez pas changer telle chose parce qu'il faudra peut-être le faire que dans 6 mois. On calme le jeu, ça sert à rien.
Je pense pas. Tu es quelqu'un, tu as envie de se coller des frais si la voiture fonctionne.
Ouais, mais
tu sais, Lolo, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas prévu d'aller voir son garagiste tous les 15 jours.
C'est pas ça. Mais par exemple, toi, moi, sur ma voiture, par exemple, les freins, je sais qu'il va falloir les changer dans 1000 ou 2000 km. Ben, je pourrais me dire sur des petits trucs comme ça.
Sur les produits grande vente, je serais vraiment pas inquiet. Et sur les produits de panne technique, de toute façon, vous ne pourrez pas anticiper. Non, quand la panne arrivera, votre voiture, il va falloir la réparer. Le risque, c'est qu'effectivement, elle soit immobilisée dans votre garage parce que la livraison n'arrive pas en temps et en heure. Et c'est là le problème.
Bon, je voudrais qu'on parle d'une bonne nouvelle et d'une mauvaise quand même. Un petit peu, on profite de toi, François.
On commence par laquelle?
Allez, la bonne. La Peugeot 208, élue voiture de l'année.
Ouais, et de loin. Face à une Porsche et une Tesla, ce qui est quand même assez incroyable. Et au-delà du fait que je suis quand même très content, c'est mon employeur avec les gens du Losange, mais c'est fort parce que c'est vraiment le design français. Et vous voyez, c'est l'école montée par Jean-Pierre Plouet.
Ouais, très belle.
Ce type-là, n'oubliez pas Jean-Pierre Plouet, c'est lui qui a dessiné la première Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Ouais. Et il a essaimé après chez PSA, il a créé toute une école de design et c'est super de revoir le design français qui revient au plus haut niveau.
Et la 2008 va suivre, parce que la nouvelle 2008, elle est canonissime.
Et voilà, tout à fait, c'est dans cette déclinaison très très identitaire de la marque Peugeot.
Bon, maintenant, la mauvaise nouvelle, on en a parlé, on l'a effleuré, au niveau des ventes auto sur le mois de février-mars, ça devient compliqué. Sur l'Oise, par exemple, ça se vend plus, on a des chutes de 20-30%, c'est pas bon quand même pour le secteur, c'est pas bon pour les emplois, non?
Non. Non, c'est pas bon du tout pour les emplois et pour le secteur, parce que oui, on risque d'avoir, comme je le dis, on est au stade 2. Au stade 2, bon, l'Oise est fermé, mais au stade 3, tous les pouvoirs publics peuvent prendre la décision d'arrêter. On vous dit, le bâtiment de Sud Radio est contaminé, vous arrêtez immédiatement. Et donc, on peut avoir des effets comme ça dans des zones commerciales où vous avez une concession, mais vous n'avez pas qu'une concession. En général, il y a énormément de concessions. Il y a tout le monde automobile qui est là. On trouve chez un fabricant, un vendeur de pneus, un problème. Et la préfecture vous dit, vous fermez toute la zone.
C'est anxiogène pour les chefs d'entreprise. Moi, je sais que si jamais on a un cas dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe?
Ouais, ça va être la panique. Vous pouvez tout fermer, quoi.
On est très inquiet. Et en plus de ça, on n'a pas besoin de ça, parce que pendant un an, on a subi quand même les gilets jaunes. Derrière, on a eu les grèves. Et maintenant, on se retrouve avec le virus.
Donc, eh ben, moi, j'ai la solution. Seulement, personne n'y a pensé. Eh ben, tu gardes tout le monde et tu fais livrer des pizzas pendant 3 mois.
Et des bouteilles, et des flacons. C'est avec tout. Modération. Merci beaucoup, François Roudier.
Et on bosse 24-24.
Pas que des pizzas choux. Je pense qu'au bout d'un jour ou demi, on aura envie d'un petit pâté croûte ou autre chose. Quand
ah
même.
Mais alors là, tu multiplies les risques. Hein. Le mieux, c'est que tu fais un stock de pizzas comme ça avec un four et tu fais des pizzas. Transforme en pizzaïolo.
Ouais, bon.
Et s'il est malade,
pizzaïolo. Merci François Roudier, le big boss de la com du CCFA. Merci également à notre ami Fabrice Godefroy.
Avec un grand plaisir.
Avec un grand plaisir de IDLP d'avoir un petit peu éclairé nos lanternes. À suivre, on va rencontrer un de nos coups de cœur. Il s'agit d'un jeune homme,
Chris
qui s'appelle
RS.
Christophe Farcy, qui est en fait Chris RS sur YouTube.
RS sur YouTube, en gros 500 000 personnes qui le suivent. Des vidéos qui sont à ras du politiquement pas correct, mais le fond qui est extrêmement chouette, on en parle dans quelques instants.
Et on parlera
instants.
Aussi du gravage des vitres, parce que le garçon il s'y connaît, surtout en tant que pilote de moto. Va falloir m'expliquer là. A tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Allez, un sujet un peu novateur aujourd'hui, et puis dans cette ambiance un petit peu compliquée avec tout ce qui se passe, voilà, avec le coronavirus et tout ça. On a voulu aussi, sur Ça roule, parler de réalité, mais aussi vous faire plaisir. On va se détendre avec François Alain à partir de midi. Et toi, tu nous as trouvé un bonhomme, un jeune homme exceptionnel. D'abord, il habite une ville qu'on adore, et pas que pour la bagnole.
Ouais, j'aurais pensé que tu étais parisien, Chris.
Ah non. Je suis du 92 aussi.
Ah d'accord, ok.
Courbevoie.
D'accord.
Alors, Chris RS, sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, où Chris, qui est blogueur, a une communauté assez forte d'environ, allez, presque 500 000 personnes maintenant.
C'est ça.
On y va tout droit.
On va y arriver.
On va y arriver. Là, je suis sûr que là, ça va partir. Allez voir. Et vous allez voir. Ce qui est sympa chez Chris, c'est que l'histoire débute, on peut dire un peu comme ça, débute avec, tu faisais déjà quelques vidéos sur les réseaux sociaux quand même. Et puis un jour, eh ben, il t'arrive une histoire avec le Père Noël en personne.
Voilà, c'est ça. Habillé en Père Noël pour une vidéo. Je croise quelqu'un qui grille un feu rouge et qui percute un piéton. Et voilà, c'est parti, la personne ne s'arrête pas. Moi, je pourchasse. Et au bout de 2-3 minutes, malheureusement, à griller quelques feux rouges, j'ai la chance. Et oui, ça arrive.
Mais pas vous, mais vous le poursuiviez. Donc
oui, voilà.
Lui, il continue en fait.
Voilà, à continuer. Et c'est là que j'ai vu les polices à la Madeleine, chose que je ne vois jamais. Ils sont jamais là. Et aujourd'hui, ce jour-là, il y avait 2 motards. Et ils ont arrêté justement la personne qui avait percuté le piéton. Et c'est voilà, c'est une belle histoire. Et tout ça...
Comment va le piéton ?
Très bien depuis.
Ouais. Et tout ça habillé en Père Noël.
Voilà, c'est surtout ça. Et sur la période des fêtes.
Ça, c'est génial.
Voilà,
c'est ça.
Ah, c'est
génial.
Énorme.
Et donc, cette vidéo fait le buzz. Tu as plus de 120 000 personnes qui s'abonnent.
Qui s'abonnent directement
sur YouTube. Je
précise
pour ceux qui ne connaissent pas forcément sur YouTube, qui s'abonnent gratuitement sur ta chaîne YouTube.
Chris RS. Voilà, Chris RS.
Et Chris est devenu... une forme presque de justicier, parce que le pire, c'est que ça lui est arrivé une deuxième fois. Alors, non. Il n'était pas habillé en Père Noël, mais pareil, délit de fuite, pareil.
Deux mois avant, dans le bois de Boulogne, on était en train de
qu'est-ce
rouler.
Qu'est-ce que vous faisiez dans le bois de Boulogne ?
On aime bien rouler avec les copains motards, la nuit dedans, il y a toujours quelque chose à voir. Et là, pas à faire, hein, j'ai dit à voir. Et là, une voiture percute un scooter, la voiture s'en va. Le scooter est à terre, en plus il était gravement blessé. Il y a la moitié du groupe qui reste à côté du scooteriste et nous on pourchasse encore la voiture qui au bout de 10 minutes s'arrête. On appelle la police et ils se font arrêter.
Oh la vache, ouais.
Voilà.
Et depuis, maintenant il fait toute une série de vidéos qui est très sympa. Et Chris a réussi à développer une forme d'amitié avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire que dans son côté justicier, où parfois il a pris quelques libertés avec le code de la route, en faisant extrêmement gaffe bien évidemment, le principe a été à chaque fois d'aller rechercher des gens qui avaient commis des infractions bien plus graves. Donc rien qu'en ça, bravo. Voilà, mais c'est pas politiquement correct, moi je te dis bravo. Et derrière maintenant, les forces de l'ordre, tu me dis, moi quand tu croises les motards et tout, ils te reconnaissent et ils te saluent aimablement.
Moi, bizarrement, quand je me fais arrêter sur Paris, c'est pour qu'ils me disent bonjour. J'ai la moto adéquate ils la connaissent, parce qu'ils l'ont déjà vue sur les vidéos, et j'ai encore cette chance-là. Bon, par contre, si je suis à un excès de vitesse, quelque chose de grave, vous inquiétez pas.
C'est évident.
je serais, comme tout le monde, amendable.
C'est évident. Et donc, Malolo, voilà comment l'histoire débute. Eh bien, il parlait souvent avec les forces de l'ordre. Il s'intéresse évidemment à tous les dossiers qui touchent à la mobilité, qu'elles soient à moto ou aussi en auto. Et au fur et à mesure de ces diverses conversations avec les forces de l'ordre, il y en a une qui revient, celle du gravage automobile. Alors, on la connaît tous. Quand tu achètes une voiture neuve, souvent dans le pack, on t'injecte dedans une formule où on te dit bah voilà, il y a ça, c'est les options, forfait, carte grise, machin, tu signes. Et t'as en gros 250 euros qui sont facturés de gravage de vitres. Et on te dit non mais ça, c'est pour retrouver ta voiture si elle est volée. Et on va être très honnête, est-ce qu'on a déjà retrouvé ces derniers temps une voiture grâce au gravage ?
Non, je ne pense pas, pas de nos jours.
C'est fini. Maintenant, le gravage, on a envie de dire, c'est presque has-been. La réalité, c'est qu'il y a des outils technologiques qui permettent d'aller plus loin. Il y a des traceurs auto, je sais pas si tu connais Fabrice Godefroy, des petits capteurs qui se mettent dans la voiture, des balises un peu de balises GPS qui te permettent de retrouver l'auto. On retrouve 95% des voitures en je sais plus quelques jours.
Ah bah tu peux suivre une voiture même au quotidien, hein, ça ouais. C'est clair. Hein.
Donc le gravage en soi, à quoi il sert?
Pas grand-chose. Moi, j'ai connu le gravage il y a très longtemps, dans les années 90, quand mes parents ont acheté une Renault 25. Je me souviens, je leur ai dit, c'est quoi ces lettres? À l'époque, en plus, elles étaient gravées de couleur orange.
Ouais. Ça, c'est pour retrouver la voiture si on nous la vole.
Voilà,
ça
aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, c'est infusé dans le bon de commande. Au pire, le vendeur va vous dire, oui, bah, je vous l'offre. C'est une remise déguisée, parce que c'est une remise qui pourrait vous mettre sur le véhicule. Et voilà, le vendeur, lui, bah, c'est normal, il gagne de l'argent dessus, la concession gagne de l'argent dessus.
Bah ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a un concessionnaire, quand il vous vend une voiture, hein, mesdames et messieurs, il ne gagne pas beaucoup sur une voiture neuve vendue. On l'a fait dans sa roule, au max, il va prendre 1000 euros, et c'est le maximum du maximum. Donc s'il arrive à dégager du gravage, ça rentre directement dans la poche, quoi.
C'est ça, moi, aujourd'hui, sur mes deux motos, je suis équipé d'un tracker. Parce qu'on m'a déjà volé une moto.
Donc, c'est les systèmes de petites balises dont voilà, je parlais, hein, GPS. Ouais.
Moi, aujourd'hui, je sors mon téléphone, je sais où est ma moto. Si on touche à ma moto et qu'elle se déplace de 2 cm, j'ai une alerte. Donc ça, c'est vraiment important et c'est la seule chose aujourd'hui valable pour vraiment savoir où est son véhicule en cas de vol.
Alors moi, ouais. Je vais te dire, je suis à 40 millions d'automobilistes. J'ai des gens qui ont retrouvé leur auto par ces systèmes de petits trackers auto. Ça, on en a tous les jours au téléphone. Enfin, tous les jours, non, pas tous les jours, mais on en a au téléphone. Mais alors, des gens qui me disent, on a retrouvé ma voiture grâce au gravage, ou alors, on m'a volé ma voiture, mais comme elle est gravée, on va la retrouver, je n'en ai jamais eu. Est-ce que ça veut pas dire, je sais que t'as pas de langue de bois, donc on va y aller, est-ce que ça veut pas dire tout simplement que le gravage s'est dépassé?
C'est clairement, je dirais, c'est has-been. En fait, on vous l'infuse, c'est quelque chose qui était peut-être bon il y a 20 ans.
Parce que c'était ce qu'on avait. On
voilà,
avait
c'était ouais. Le seul moyen, entre guillemets. Aujourd'hui, on a des moyens qui coûtent le même prix et qui sont nettement plus fiables. En fait, c'est tout ce qui est lié au téléphone, c'est forcément plus fiable. Aujourd'hui, si vous voulez appeler un proche, savoir où il est, vous l'appelez. Bah moi, si je veux savoir où est mon véhicule, je regarde mon téléphone, je sais où il est.
Et puis, de toute façon, celui qui n'a pas de téléphone ou qui n'a pas ces systèmes de tracking directement via le téléphone, il y a aussi des sociétés qui proposent d'enregistrer les données de ton véhicule. Et s'il est volé, on le retrouve dans 95% des cas en moins de quelques heures. C'est assez fou. Tu me disais avant l'émission, mais quand je parle aux forces de l'ordre, ils me disent, mais on ne vérifie jamais ça.
Jamais, justement. Avant de venir là, j'ai fait mon petit sondage.
Ouais.
J'ai mené mon enquête et non. Aujourd'hui, ils regardent la plaque, que la plaque. Si la voiture a une doublette pour la plaque, bah, ils vont pas le voir. Par contre, si elle est volée, ils vont pas regarder les vitres.
On se limite uniquement à la plaque d'immatriculation. À partir du moment où la plaque est bonne, bah... Tiens, Fabrice, t'as tes vitres gravées, toi ?
Oui, mais justement, on en parlait tout à l'heure en attente, là. Moi, je l'ai, mais il y a un abonnement qu'il faut continuer là-dessus.
Ça, c'est intéressant.
Et moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais poursuivi. Apparemment, en plus, c'est un abonnement tous les ans.
Voilà, faut
nouvelle.
Le renouveler.
Et moi, je l'ai jamais fait. Donc, je sais même pas.
Alors, ça, c'est
très
drôle, parce que en fait, ce renouvellement de l'abonnement. Donc tu payes 250 euros à peu près cash, la concession, pour avoir l'auto avec les vitres gravées, et on t'offre un an ou deux, un truc comme ça.
C'est ça.
Et au bout d'un moment, tu reçois un papier chez toi qui te donne l'impression que t'es obligé de payer, limite. Ça te donne cette impression-là. Sauf qu'au final, si on le fait pas, c'est fini.
Voilà.
On a des lettres et des numéros sur
C'est juste un cadeau pour un an, et après, voilà.
Mais je crois que c'est même pire que ça. C'est-à-dire que quand on récupère la voiture, il faut de toute façon aller l'inscrire apparemment sur un fichier informatique. Donc si on ne le fait pas, même au départ, on ne l'a même pas, j'ai l'impression.
C'est... En principe, on peut imaginer que la concession fait le boulot pour nous quand même.
Je ne sais pas. Moi, je sais que
signe,
moi...
On signe le contrat quand c'est comme ça.
Et par contre, tu vois, Fabrice,
moi, j'ai jamais fait,
et quand tu as acheté ta voiture, tu n'as pas vérifié ça dans les options si on te facturait des choses qui servaient un peu à rien?
Non, parce que moi, j'achète des voitures en faible kilométrage, des voitures de collaborateurs sont déjà gravées. Et franchement, je fais jamais gaffe à ça.
Ouais, c'est un gravage systématique. Ouais. Laurence, ta voiture, elle est gravée au niveau des vitres, toi?
Je pense qu'elle l'est, mais j'ai même pas jamais fait attention à ça.
Voilà. Bah, moi, posez-vous la question.
Je suis même pas sûr.
Moi, ma dernière voiture, chez une marque, on va dire premium, il proposait pas le gravage. Que j'ai un ami, il s'est acheté une voiture, une française. On dirait que c'était dans son bon de commande.
Oui, j'ai vu.
Et, il m'a dit.
Acheter français.
Ouais, et il m'a dit, le vendeur, oui, mais on a brièvement parlé et bon, bah, je l'ai pris, quoi, parce que généralement. Il y a le prix de la voiture, en dessous il y a le gravage, c'est en dessous il y a le gilet, il y a la carte grise, il y a les pages.
Les frais d'immatriculation.
À l'époque, on vendait même les ampoules.
Ouais, mais et c'est marrant, c'est ce qui fait, à vous tous qui m'écoutez, c'est ce qui fait le fait que à la télé vous voyez le véhicule à partir de, par exemple, vous dire à partir de 9 990 euros, puis vous arrivez en concession et on vous dit ah oui mais c'est quoi le modèle de base, et il te donne une facture et il y a pas marqué 8 990 ou 9 990, il y a 600 balles de plus et tu te dis oh bon bah ça doit faire partie du truc quoi, sauf qu'en fait eh ben tu t'es pris 300 euros minimum, 250-300 euros de forfait gravage sur un truc que tu vas pas garder au bout des 2 ans parce que ça te coûtera le même prix. Et au final, ça t'a servi juste absolument à rien.
Un peu comme une extension de garantie pour un lave-linge qui va...
Oui, de toute façon, il lâche au bout de 7 ou 8 ans et l'extension de garantie va jusqu'à 5.
C'est un peu ça.
C'est exactement le même système. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut objectivement, Chris, dire aux gens que ça sert à rien, ou est-ce qu'on peut quand même... leur dire bon bah pourquoi pas,
bah si vous avez trop d'argent prenez-le hein, ou sinon je pense que ça peut être utile à mettre dans une option en plus dans la voiture,
ouais. Et tout en sachant que voilà, on va pas donner de marque, il y en a qui le font. Moi, je vous conseille quand même d'aller voir ce qui se passe si vous voulez vraiment protéger une voiture un peu premium, une jolie voiture. T'y figure parmi les voitures les plus volées, c'est facile. On va sur Internet, Auto Plus fait le classement très bien. Eh ben, je vous conseille quand même d'aller plutôt sur des systèmes de tracking auto. Ça, c'est sûr, et au moins, vous mettez pas votre argent dans n'importe quoi.
Eh ben merci beaucoup d'être passé au micro de Sud Radio, monsieur Chris
RS.
Chris RS sur YouTube. Retrouvez ces vidéos, elles sont sympathiques, surprenantes. Et il y en a plein des rigolotes avec les forces de l'ordre. Il y a une histoire de pizza aussi, c'est pour ça que j'avais pizza en tête.
Ah oui.
C'est pour ça que tu as pas de pizza YOLO. Ouais, je l'ai vu celle-là aussi.
Et sur Facebook, il y en a quelqu'un qui a réagi hein, dans nos. Comment on appelle ça, nos. Ah bah décidément, je permets. Nos followers qui dit ah bah oui, mais si le pizza YOLO tombe en panne, on fait comment? Enfin, le coronavirus, pardon, on fait comment? Voilà.
Mais c'est pour ça que j'ai proposé d'intégrer directement Fabrice Godfrey dans sa société qui fait les pizzas en direct.
Stéphane qui dit, et celui qui a fait les pizzas, hop, malade. Bah du coup, bah remarquez, on perdra un peu des kilos, ça nous ferait peut-être pas trop de mal, nous.
Je peux les livrer en moto. Hein.
Ah, pas mal. Allez, à suivre.
Et on va vous emmener
du côté de Reims. Alors, première nouvelle pour les Rémois ou les Champenois, les Haut-Marnais et autres. Le 33e salon champenois du véhicule de collection pour cause de coronavirus qui devait se dérouler ce week-end est reporté au 9 et 10 mai 2020. Mais on va vous parler d'un autre événement, une exposition qui se déroule actuellement, ça se passe à Tinqueux, c'est à côté de Reims et c'est l'automobile dans l'art. On en parlera en détail avec son spécialiste, le commissaire de l'exposition, AART. Et puis après, on va retrouver monsieur Jean-Michel Lenné, spécial moto aujourd'hui. Bah oui, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Ça roule. Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et je vous emmène du côté de Reims, en tout cas pas très loin, une commune qui s'appelle Tinqueux, où l'on fait une exposition sur l'automobile dans l'art, monsieur Pierre Chasseret. Vous aimez bien l'art automobile, vous, hein ?
Ah oui, j'adore.
Alors juste, on rappelle que le salon champenois du véhicule de collection qui devait se tenir ce week-end, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, est reporté au 9 et 10 mai 2020 pour cause de coronavirus.
Ouais, ça fait des dégâts quand même. Hein. On dit ce qu'on veut, mais le nombre d'événements qui sont annulés... Je prends juste quelques secondes, mais pour rappeler quand même que le salon mondial de l'automobile qui se prévoyait à Paris, Paris, on va être très clair, Lolo, moi je l'avais pas en odeur de sainteté, je sentais mal le coup. Parce que pour l'instant, les constructeurs étaient un peu laissés sur le côté, parce qu'on parlait que très peu d'automobiles, le mot salon mondial de l'automobile était abandonné, on voulait parler du Paris Motion Festival, moi franchement je sais pas ce que c'est, moi le Paris Motion Festival, ça me parle pas. Sauf que la grande chance du salon de Paris, c'est qu'avec l'annulation de Genève, eh bien tous les véhicules qui devaient être présentés à Genève vont avoir envie sans doute d'aller à Paris, que ça va peut-être sauver notre salon. Donc bon, voilà, ça sera au moins une conséquence positive.
Allez, on passe de ce salon de Paris qui normalement a lieu au mois d'octobre à celui qui se déroule aujourd'hui. C'est pas un salon, c'est une exposition. Emmanuel Delorme, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour Claire.
Alors la communication téléphonique est très très mauvaise. Je ne sais pas où vous êtes placé, Emmanuel.
J'ai essayé de mettre à l'écart de la foule.
Eh ben, faut même sortir.
Donc sortir de mon placard.
Voilà, sortez de votre placard. Alors pendant que vous sortez, je vous laisse.
Moi, je vous entends très bien.
Alors Emmanuel, pendant que vous sortez, vraiment sortez dehors, ce sera peut-être mieux, ou mettez-vous à une fenêtre.
D'accord.
Je vais donner les dates. Donc ça a commencé hier, c'est aujourd'hui et demain. Ça s'appelle l'automobile dans l'art, avec 8 artistes qui exposent leurs dernières créations. Il y a des dessins, il y a des peintures, il y a des gravures, il y a des sculptures, tout ça autour de la voiture, dont entre autres les fameuses 12 heures de Reims, avec des pièces assez rares, Emmanuel.
Oui, un magnifique tableau de Jean-Christophe Touret, une île de 1,40 m sur 1,20 m, représentant une Jaguar arrivant au stand de Reims pendant les 12 heures de Reims. La course mythique qui était la revanche des 24 heures du Mans.
Est-ce que vous avez... vous nous avez dit qu'il y avait du monde et qu'il y avait la foule. Donc très objectivement, c'est que ça marche. Les gens sont au rendez-vous alors?
Oui, de nombreuses personnes sont là. On a eu une bonne centaine de visiteurs hier, ce qui pour ce genre d'exposition est plutôt bien. Déjà une bonne cinquantaine ce matin. Oui, et puis les gens sont enjoués, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de préoccupation, on est vraiment dans le plaisir et la légèreté.
Alors il y a des peintures évidemment sur les 12 heures de Reims, on rappelle un petit peu ce que sont les 12 heures de Reims pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, Emmanuel, de découvrir cet événement sportif.
Oui, Reims était historiquement une ville de voitures, car il a accueilli un grand prix de l'ACF de 1930, les puristes nous corrigeront, jusque dans les années 70, avec un point d'orgue des années 50 et 60, où tous les grands pilotes des débuts de la F1, que ce soit Fangio, Moss, et plein d'autres dont le nom ne me revient pas, ont participé à ce grand prix. Qui était un grand prix mondial, qui participait au championnat du monde.
Et ben ça, c'est ma question. C'est comment ça se fait qu'en France, on est réussi à faire perdurer, par exemple, les 24 heures du Mans, qui ont une résonance internationale. On a vu numéro 1 au box-office, Le Mans 66 aux États-Unis. Donc, oui. Super film, ça a fonctionné. Comment ça se fait que du côté des 12 heures de Reims, on n'ait pas réussi à préserver cet événement auto?
Je pense que la forme du circuit qui était destiné à l'époque pour atteindre la plus grande vitesse moyenne, c'est-à-dire à l'époque, je dirais, dans les années 30 et jusque dans les années 50, c'est une forme de triangle. Donc, trois grandes lignes droites, trois virages. Je pense que cette configuration ne correspondait plus aux attentes des spectateurs et de l'évolution des véhicules.
D'accord.
Alors vous êtes en plus sculpteur, artiste et entre autres avec quelqu'un que vous connaissez bien à l'origine de cette exposition qui se déroule à Tinqueux encore aujourd'hui et demain. Il y a de l'art dans la voiture est dans l'art. Et alors vous faites, ça va plaire à Pierre et je pense que ça va plaire aussi à nos spécialistes et amoureux de la voiture qui sont autour de ces micros.
J'écoute.
Emmanuel Delorme fait des sculptures à base de petites voitures majorettes.
Oh c'est trop beau.
Oui.
Et ça, c'est étonnant. Et moi, j'ai reçu une photo, et merci beaucoup. Un cube fait, par exemple, entièrement avec des petites voitures majorettes.
Ah, mais Tine n'a pas joué.
Entièrement, c'est entièrement. Hein. À l'intérieur du cube, il y a des petites voitures. Il n'y a que de la résine pour fixer l'ensemble, pour tenir l'ensemble.
Et puis là, vous avez ce cube. Vous avez aussi une pendule que vous avez métamorphosée avec des petites voitures. C'est quoi ce délire, ce besoin, ce bonheur de travailler la petite voiture d'enfant?
Alors, c'est une des facettes de mon activité. Je travaille aussi les montres et les bijoux. Mais la petite voiture, c'est quand même l'expression particulière de l'enfant que tous les petits garçons ont été. C'est un langage, c'est un élément de communication entre tous les hommes et toutes les femmes qui n'aiment pas la voiture et particulièrement ces petites formes qui tiennent dans la main, colorée, douce, brillante. Et le principe de l'accumulation, de la répétition de ces petites voitures, ben, compose des mosaïques joyeuses et qui, en plus de leur aspect, ont un signifiant, décrivent quelque chose. On y retrouve la voiture de son enfance, on y retrouve la voiture de Pépé, on retrouve la Ferrari qu'on voulait avoir ou la Porsche dont on a toujours rêvé.
Et puis, ces voitures-là, on les a gardées, on a tous un souvenir. Tiens, on va faire un petit tour de table parce que tout le monde est resté. Fabrice Godefroy, des petites voitures Majorette, t'en as eu ?
Ah oui, bien sûr, ouais, ça c'est clair. Et je les ai encore d'ailleurs. Moi j'ai toute une vitrine où j'ai encore quelques petites voitures qui sont là et j'ai du mal à. Chris a joué avec même.
Moi j'aimais bien les cracher, mais j'aimais bien casser les petits trous. Je suis un mauvais, moi désolé. Hein.
Mais après tu les amènes à Fabrice Godefroy. Voilà.
Moi c'est vrai que je les ai gardés carrément dans les boîtes et je les ai très peu sortis. Il y a même une vis qui.
Tu fais partie de ces enfants, ouais. Tu n'ouvrais pas les boîtes.
J'ai essayé.
Ah, pourquoi vous réagissez pour conclure, Emmanuel à...
Parce que Fabrice est riche du coup, il le sait pas.
Et ben justement, j'ai voulu faire passer la petite voiture de l'enfance à l'âge adulte et avec ces horloges où les heures sont représentées par différentes voitures créant une thématique, et ben, ces petites voitures reviennent dans les bureaux, reviennent dans les garages ou dans la cuisine pour un clin d'œil à l'éternelle jeunesse.
Bah, moi, j'avoue qu'elles reviennent chez moi.
Et, ouais. Moi, j'ai un regret sur la même chose sur les petites figurines de Star Wars qu'on avait quand on était hyper jeune. Alors ça, là, malheureusement, par contre, j'ai enlevé les boîtes et j'ai joué avec.
Ça vaut très cher, ça, maintenant.
Oui, mais j'ai plus les boîtes, par contre. J'ai plus que les petites
bonhommes. Vous voyez, on pourrait même faire une émission sur la collection des petites voitures. Merci beaucoup, Emmanuel Delorme.
C'est l'histoire de Majorette. Mais donc, génial,
les Majorettes, c'était pas que les petites voitures.
Moi, je les aime toutes.
Il y a des magasins qui en revendent actuellement, des vieilles. Dans le 17e, moi, j'en connais un.
Des voitures Majorettes.
Les petites majorettes,
voilà,
de collection.
Les voitures. Ouais, merci beaucoup. Je vous rappelle les dates. Hein, c'est encore aujourd'hui et demain. C'est à Tinqueux. Tinqueux, c'est donc du côté de Reims. Voilà, vous n'hésitez pas. Ça s'appelle. Alors attendez, il faut que je retrouve exactement, pour ne pas vous dire de bêtises, l'automobile dans l'art. C'est une exposition avec 8 artistes qui exposent leur dernière création à Tinqueux. Si vous êtes dans le coin, allez vous y promener. Allez, tout de suite, on va retrouver notre spécialiste moto, Jean-Michel Lenné.
Sud Radio Moto, Jean-Michel Lenné.
Et on retrouve tout de suite notre spécialiste du deux roues. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Je vous emmène cette semaine au guidon d'une énorme nouveauté 2020 de la part d'une marque qui a construit sa légende autour d'un moteur. Si je vous laisse écouter ceci. Vous avez bien sûr reconnu le célèbre son d'une Harley Davidson qu'on connaît tous pour son emblématique moteur bicylindre en V. Eh bien, écoutez ce moteur-là. C'est celui d'une moto électrique qui s'élance, la première Harley Davidson électrique. C'est la Livewire. Alors, que représente cette moto pour Harley ? On écoute Manuel Bonne, le responsable marketing de Harley France.
Livewire, c'est le futur de la marque. On veut clairement être les leaders de l'électrification moto. Et on veut vraiment, en tout cas, par cette moto, montrer toute l'innovation, tout ce qu'on peut mettre en place chez Harley Davidson.
Alors côté innovation, on est servi parce qu'en plus d'être électrique, ce n'est pas du tout un custom contrairement à toutes les Harley. On est sur un roadster sportif avec un cadre en aluminium, des suspensions et des freins haut de gamme et de très grandes performances. C'est simple, jamais Harley n'avait produit une telle machine, même avec un moteur thermique.
Mais alors donc, qu'est-ce qui va changer sur le guidon ?
Eh bien, cette moto est courte, étroite, la selle est haute, les pieds sont à l'aplomb du dos et le buste légèrement en avant. Il n'y a aucune comparaison avec le reste de la gamme actuelle ou passée. On va chevaucher le futur. D'ailleurs, à la mise en route, on n'entend rien, à part ceci lorsqu'on est attentif. Ce sont des petits à-coups que donne la moto pour nous rappeler qu'elle est prête à partir. C'est une alerte sur cette moto silencieuse qui n'a ni embrayage ni vitesse, car il suffit de tourner la poignée pour partir comme avec un scooter. Par contre, le freinage, c'est comme une moto avec la main et le pied droit. Allez, c'est parti.
Allez, on est parti, on est sur la Livewire. La Livewire, c'est la nouvelle Harley Davidson électrique.
On l'entend pas forcément, mais les accélérations sont incroyables. Le staff n'arrêtait pas de nous dire de faire attention à l'ouverture des gaz. On comprend pourquoi dès les premiers mètres, c'est hallucinant. D'ailleurs, Harley a bardé d'électronique sa Lavoyeur. On se croirait sur une véritable moto de sport. En dehors des performances du moteur, il faut saluer la qualité des suspensions et du freinage. C'est d'un excellent niveau.
Tout ça, c'est très bien, Jean-Michel, mais c'est quoi l'autonomie ?
En conduite normale, Harley-Davidson promet au minimum 158 km, ce qui semble réaliste. Après mon petit essai en montagne à un très bon rythme, on peut recharger la batterie à 100% en une heure et sur une borne de recharge rapide à 80% en 40 minutes. Tout ceci se contrôle depuis le tableau de bord TFT couleur et tactile ou votre smartphone, puisque cette moto a la connectivité iOS et Android.
Et c'est tout ce qu'on a en électrique chez Harley ?
Pour l'instant, oui, c'est un début, mais vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On écoute Manuel Bonne.
On a dans les prochaines années la volonté d'avoir une gamme électrique avec, en partant de la draisienne électrique qui existe déjà, jusqu'à les vélos. On a parlé de plusieurs vélos qui vont bientôt arriver sur le marché d'ici septembre. Et ensuite, on aura des cylindrées un peu moyennes, même si on n'utilise plus ce mot cylindrée pour des véhicules électriques.
Voilà pour les surprises. Côté tarif, la Livewire débute à 33 900 euros. C'est la plus chère des Harley, en dehors des CVO. Ce qui ne vous empêche pas d'aller l'essayer, je doute que vous restiez indifférent. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Bonne balade et à bientôt.
Merci beaucoup Jean-Michel. Allez, il sera question de voiture également, mais pas simplement. À partir de midi, juste après le journal, où on a le plaisir d'accueillir le journaliste de télévision auto préféré des Français, Monsieur François Alain. Et il nous parlera aussi de sa grande expérience et puis surtout de la nouvelle aventure sur RMC, puisque Vintage Mécanique, vous les retrouvez tous les jeudis soirs. Il est avec nous, il est sur Sud Radio et on est ravis. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h midi 30.
Et il est arrivé, il est avec nous, on est ravis de le retrouver. Vous pouvez aussi bien sûr nous joindre sur la page Facebook de Sud Radio où vous verrez ce joli visage en live. Cet homme est le journaliste préféré, le journaliste auto-télé préféré des Français, Monsieur François Alain. Bonjour.
Bonjour, quel honneur.
On va parler de vous, on va parler de votre nouvelle émission. On va évidemment ouvrir le standard, hein, si vous voulez rencontrer François Alain, si vous voulez lui poser des questions sur la façon dont sont faites les émissions, etc., etc. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300 ou directement sur la page Facebook. Allez, c'est parti, François Alain est dans sa roule. Alors, comme ça, M. François Alain, on a été élu meilleur journaliste des Français.
Bah, il paraît, ouais.
Waouh. On explique tout de suite ce qui s'est passé. Bah, c'est chouette.
Bah, il a
c'est
payé.
Mérité.
Bien sûr.
Ah non.
J'ai cliqué 300 000 fois sur mon smartphone.
Non, c'est mérité.
Non, on ne pouvait
mérité.
Pas. C'était, oui, bien sûr. Non, en fait, c'était une espèce de. Oui, c'est une élection qui a eu lieu sur Internet, en fait, sur les réseaux sociaux. Et qui a donc eu lieu là entre janvier et février, décembre et janvier. Et voilà, bon, il y avait 6 émissions en lice, entre guillemets, à travers leurs animateurs, donc ça faisait 11 personnes au total. Bon, ensuite, savoir qui est le préféré ou pas le préféré, tout tenir, c'est pas ça l'important.
Ouais,
l'important,
sûr,
c'est de savoir, voilà, c'est, à mon avis, c'est de rappeler une fois de plus que l'automobile, c'est quelque chose de fort chez les Français, et tant mieux, et qu'il y a une vraie cote d'amour là-dessus, et voilà, ensuite, bon, bien sûr que les gens peuvent aimer un tel ou un tel parce qu'il est plus, il leur semble plus sympa ou moins sympa, ou j'en sais rien, on s'en fiche, c'est pas ça l'important.
Non, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on vous connaît bien depuis longtemps, puisque vous êtes aussi souvent aux côtés de M. Chapotte dans la même maison que nous avons en commun, qui est
M6. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais aussi maintenant sur RMC le jeudi soir avec Vintage Mécanique, une émission qui ne cesse de faire des heureux, et vous êtes de plus en plus regardé.
Ben, on a beaucoup de chance. C'est vrai que cette émission, elle est très jeune en fait. Hein, elle est à l'antenne depuis même pas 4 ans, donc c'est très très jeune. Et on a effectivement une croissance régulière des audiences de cette émission, ce qui prouve là aussi que les gens aiment l'automobile, donc on est dans une époque qui est quand même globalement autophobe, et que les gens aiment l'automobile et tout ce qui va avec, et notamment dans la voiture ancienne, qui est une des branches de l'automobile, mais qui est aussi une vraie branche de l'automobile, c'est que ça fait bosser aussi beaucoup d'artisans, beaucoup de gens très passionnés. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de montrer les dessous, entre guillemets, de la restauration. Alors bien sûr, le principe de l'émission, on est un petit peu dans la mouvance actuelle, avec un peu d'emballage télévisuel, le container, les enchères, tout ça, mais Très honnêtement, le cœur de l'émission, bien sûr, c'est pas ça. Le cœur de l'émission, c'est la restauration des voitures.
Alors, ouais, je voudrais vraiment qu'on la raconte, cette émission.
Ouais,
parce
elle
que
est vraiment
moi, chouette. Moi, François, je vais t'expliquer comment j'ai découvert l'émission. Mon fils est un fou fanatique d'automobile.
On l'embrasse.
Et je pense que s'il avait dû voter pour un journaliste auto, même si j'avais été dans la liste, je pense que c'est pas pour moi qu'il aurait voté.
Ah, sympa.
Ça serait sans doute pour toute l'équipe de Top Gear et aussi pour toi.
Bien
parce
sûr.
Que cette émission est génial, il me l'a fait découvrir un jour dans le train, on s'est connecté et là, incroyable, c'était une émission avec une petite coccinelle de mémoire.
Oui,
ah bah ça, t'aimes pas du tout la coccinelle.
Première série, ça, c'était la saison 1. Ouais, absolument.
Exceptionnel.
Non, mais Pierre, faut le dire, t'es amoureux de la coccinelle.
Je suis amoureux de la coccinelle.
Ah ben, je partage.
Et je voudrais vraiment qu'on explique ce que c'est que cette émission et comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'à la base, tu vas aller sur le terrain pour aller chercher une voiture bon marché, avec pas trop de choses à réparer, la bonne occasion qui va te permettre derrière de la retaper et d'en faire une voiture sur laquelle on fait une plus-value si on veut la revendre.
Oui, alors
si
ça,
on veut la revendre.
Oui, voilà, ça c'est un petit peu le...
C'est l'accessoire.
Ce que j'appelle l'emballage télévisuel, bien évidemment, il faut prendre aussi parfois les choses au second degré. L'idée, en fait, c'est de faire une émission, effectivement, où on donne... Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, évidemment, le socle de l'émission, c'est les fans de voitures, bien évidemment, et de voitures de collection en particulier. Et pas que, parce qu'on fait aussi un petit peu de moto, on fait des engins, ce que j'appelle un peu exotiques. On a fait un tracteur, on vient de faire un half-track de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on essaye aussi de sortir un peu des clous pour faire des trucs un peu décalés, un peu rigolos. Mais le principal, c'est ça. C'est surtout de donner envie aux gens de s'intéresser et de s'y mettre. Parce qu'en fait, le socle des passionnés de voitures anciennes en France, il est assez important. Mais on a la chance d'avoir une audience qui est bien supérieure. Donc, qui laisse supposer qu'il y a une grosse partie des gens qui regardent l'émission qui ne sont pas des spécialistes.
D'ailleurs, record d'audience a encore été battu. Bravo.
Absolument.
Hein, 642 000 spectateurs, téléspectateurs.
Jeudi soir.
Ça continue de monter.
Ah
ouais. Et là, c'est un chiffre global. Hein.
C'est une moyenne.
Ouais, c'est la moyenne.
Oui, parce qu'en télévision, il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle la moyenne, donc c'est le nombre réel de gens qui ont regardé l'émission. Et puis ce qu'on appelle la pointe, qui est le moment où, dans l'émission, pendant quelques instants, il y a eu le nombre de spectateurs maximum. Donc il faut faire attention parce que certains jouent sur ces chiffres. Bien évidemment, le vrai chiffre, c'est ce qu'on appelle la moyenne. La pointe, c'est un peu factice.
Et alors, ce qui est très bien, c'est que sur la cible, ce qu'on appelle la cible,
oui,
il y a des jeunes.
Oui.
Et ça, c'est important. Parce
c'est
qu'on pourrait imaginer que Vintage Mécanique, peut-être, va avoir des gens comme nous, c'est-à-dire 40 ans et plus, voire 35 ans. Non, vous tapez dès le plus jeune âge.
Non. Très honnêtement, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir effectivement que la clientèle n'est pas que masculine, déjà, et qu'en plus, il y a aussi des gamins. Et quand on est, nous, dans des salons, dans des événements, et que je vois des mômes de 8, 10, 12 ans qui viennent me voir, et qui me disent « Ah, François, dans l'épisode machin, pourquoi t'as fait comme ci, pourquoi t'as fait comme ça ?» Mais quel bonheur. C'est ça qui me fait le plus plaisir, parce que ces gamins, ce seront les collectionneurs de demain. Pour peu que l'automobile existe encore.
Mais bien sûr. Elle existera parce que c'est ce qu'on se dit souvent avec Fabrice, hein, quand on en discute, Fabrice Godefroy d'IDLP, que tu connaissais peut-être, c'est le numéro 1 de la pièce de rechange. Donc, indépendante. Donc, vous avez peut-être quoi bosser ensemble.
On va s'échanger nos cartes.
Mais on se dit toujours, voilà, finalement, quand tu vas à Noël, François, dans les rayons des supermarchés pour les enfants, eh bien, le jouet le plus répertorié parmi les rayons, c'est la petite voiture. On achète même, et pour les petites filles, pareil. On achète la voiture de Barbie.
Bien sûr.
La voiture, elle est là. Il y a la petite coccinelle rose, on a vu décliner dans toutes les collections. Donc tout ça, ça existe. Et ces voitures qui parlent au cœur, qui parlent à l'histoire, pour moi, l'automobile, c'est de l'histoire.
Ben, on est d'accord. Moi, je pense que c'est ça. Et ce qui va sauver la voiture de collection, quand je dis la voiture, c'est aussi la moto. Hein. Je sous-entends tout ce qui est véhicule de collection. C'est effectivement le côté passionnel. Je pense que de toute manière, là, il est évident qu'aujourd'hui, on va vers la séparation entre, d'un côté, les voitures de collection ou les engins de collection qui ne sont pas des véhicules pour rouler tous les jours, c'est des véhicules dont on sert par plaisir, par passion, et puis le véhicule qui lui sert vraiment à se déplacer d'un point A à un point B pour aller au boulot tous les jours. Ça va être de moins en moins la même voiture, évidemment, pour des raisons totalement évidentes, et donc il faut justement que beaucoup de gens qui ont peut-être un avis négatif de l'automobile se disent une bonne fois pour toutes, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Donc il faut pas mélanger tout. Et quelqu'un qui a une voiture de collection qui va mettre des années parfois à la restaurer, à la bichonner, etc., il y tient tellement que de toute manière, il y fera extrêmement attention. Il roulera relativement peu et sera extrêmement soigneux. La preuve, c'est les assurances. Les assurances pour les véhicules de collection sont globalement pas chères. Pourquoi? Parce que les assureurs savent très bien que les collectionneurs sont ultra attentifs.
François-Alain, y a notre ami Fabrice Godefroy qui veut absolument...
Oui, mais il a raison.
J'en profite parce qu'effectivement, dans mon métier de distributeur auto, je rencontre des garages tous les jours.
Bien sûr.
Et pour eux, c'est une véritable fierté, votre émission, avec d'autres, mais la vôtre aussi, parce que c'est une reconnaissance de leur métier.
Bien
pour
sûr.
Pour eux, ils en sont extrêmement fiers. Bien Moi, sûr. Je vois, ils en parlent, mais avec passion, et ils sont super contents. Alors, quelquefois, ils disent, tiens, moi, j'aurais pu faire ci,
oui,
faire
mais
ça.
Oui, mais c'est normal.
Il y a le côté professionnel. Mais je vois que c'est une véritable fierté. Et pour eux, j'en suis super content parce que vous le dites, ils vivent des moments très difficiles où toute la journée, on leur dit que l'automobile, c'est pas beau, vous êtes des criminels parce que vous roulez en voiture. Et pour eux, c'est une des satisfactions qui leur permettent vraiment d'avoir une reconnaissance de leur métier.
Ouais, c'est
et vraiment
bravo.
D'oxygène.
Non, merci beaucoup, en tout cas.
Et j'imagine d'ailleurs que ceux qui font du car bashing aujourd'hui sont quand même assez amoureux des voitures de collection, en fait. Il doit y avoir une dichotomie dans leur façon de penser, ou quand ils voient une belle voiture, une belle vieille voiture. Voilà. Alors, vous n'aimez pas que les vieilles voitures, vous aimez la voiture en général. François, vous allez nous raconter, monsieur Alain, ça vous a piqué quand, ça petit, pas petit. Ce sera dans quelques instants, juste après cette pause sur Sud Radio. On reçoit celui qui a été élu meilleur journaliste auto-télévisé de France, monsieur François Alain, et puis bien sûr à la tête aussi de cette émission RMC le jeudi soir, Vintage Mécanique. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Il est avec nous sur Sud Radio ce matin. Il vous présente Vintage Mécanique sur RMC Découverte, la chaîne de la TNT, tous les jeudis soirs à 20h50. Le succès ne cesse de grandir. Il a été élu meilleur journaliste auto-télévision pour français, en fait. Il est avec nous et on adore. Et alors, c'est très bizarre. Il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Un petit passionné de voiture, là, qui est arrivé dans le studio, mais je n'en dirai pas plus. François, quand vous aviez l'âge de notre petit passionné de voiture qui est arrivé dans le studio, est-ce que vous aussi, vous étiez déjà totalement accro à la voiture?
Alors, moi, c'est assez bizarre parce que souvent, on a des antécédents familiaux. Moi, dans ma famille, les gens aimaient bien les voitures, mais j'ai pas d'obsédé de la voiture dans ma famille. Donc, j'ai pas effectivement un papa qui m'a emmené à Montlhéry ou au circuit du Mans. Ça s'est fait tout seul, naturellement. J'avais un cousin chez qui, évidemment, je suis allé de temps en temps, qui habitait en Normandie. Donc, c'était un peu une expédition à l'époque pour aller là-bas, parce qu'il n'y a pas d'autoroute ni rien. Donc, je suis allé plusieurs fois chez ce cousin qui aurait l'âge d'ailleurs d'être mon grand-père largement, et qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était un fou passionné de voitures et journaliste automobile, et effectivement, qui avait une petite collection. Donc, c'est évidemment inconsciemment chez lui que le virus est né, c'est certain, mais j'avais pas effectivement de prédisposition particulière là-dessus. Simplement, je fais partie de cette génération qui est en train de disparaître, il faut le dire, mais cette génération qui comptait les jours...
Vous avez encore quelques années devant vous. Hein.
Non, mais attends, je vais expliquer pourquoi. La génération qui comptait les jours pour avoir 18 ans,
passer le permis de conduire. Mais oui, pareil.
Je dis ça parce que mes propres enfants, quand ils ont eu 18 ans, le permis de conduire, François, ils n'avaient rien à faire.
J'en connais un qui fait partie de la génération qui attend d'avoir 15 ans pour être inscrit à la conduite sans permis.
Tant mieux, parce que c'est quand même c'est moins fort qu'il y a quelques années.
Mais c'est vrai. Hein.
Et moi, j'attendais tellement d'avoir 18 ans pour passer mon permis de conduire auto et bien évidemment moto, que j'avais eu, je crois, mon code avant mes 18 ans. J'avais 17 ans 3 quarts. Et dès que j'ai eu 18 ans, je suis allé tout de suite m'inscrire et j'ai passé dans la foulée le permis auto, le permis moto, parce que pour moi, c'était le symbole de la liberté, le symbole du déplacement, du voyage.
Et bon, ça
l'est,
pilette, hein,
mais ça l'est moins, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et donc, c'est né comme ça. Et puis, comme j'avais pas l'argent pour m'acheter, à l'époque, c'était les 205 GTI, qui était la voiture neuve qu'il fallait avoir. Moi, j'avais pas l'argent pour acheter une 205 GTI. Donc, je me suis dit, la bonne manière d'emballer les filles, c'est d'avoir une voiture qui se démarque.
Voilà. Ça a marché? Ça et la guitare?
Plutôt marché. Non, moi c'était la batterie, hein, désolé.
C'est moins transportable.
Mais c'est...
Avec moi, tu vois, j'avais une vieille Fiat Panda 1000 GL. C'est extraordinaire, ça s'invente pas. Mais il y avait un coffre et dedans, moi au moins, j'amenais la guitare. Et bien forcément, ça compensait la Fiat.
Voilà. Donc moi, la première, c'était une petite 204 coupée Peugeot des années 60 que j'ai trouvée dans la ville de l'auto, sans savoir quelques années plus tard, j'y travaillerais comme pigiste d'ailleurs. C'est assez drôle. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis bon.
Allez, on revient sur Vintage Mécanique. Il y a un gros rendez-vous jeudi soir.
Ah oui, alors jeudi soir, il y a un gros rendez-vous.
RMC Découverte.
Parce que ça va être les 50 ans jour pour jour de la Citroën SM, dernière grande voiture française de prestige, etc. Et donc, il se trouve que l'émission est diffusée le jeudi, donc on est 50 ans jour pour jour à quelques heures près. Et surtout, j'ai eu la chance, parce que ça a été un vrai moment sympa pour moi en tant que que petit journaliste auto depuis quelques années, de recevoir Michel Drucker, qui est quand même un monument, faut le dire. C'est pas du tout péjoratif, au contraire. Et en fait, j'ai emmené Michel dans la SM présidentielle, qui avait été commandée par Georges Pompidou et qui a servi à tous les présidents de la République pour descendre les Champs-Élysées lors des intronisations et des visites officielles des grands de ce monde. Donc, c'est la voiture qu'a utilisée Pompidou, Giscard, Mitterrand, enfin, etc. Et donc, avec Michel, on a descendu les Champs-Élysées dans la SM présidentielle. Et évidemment, comme son émission culte, c'est Champs-Élysées. Évidemment, le clin d'œil était évident. Donc, on a commencé dans une des cours des palais de l'Élysée et on a fini, évidemment, devant le studio Gabriel, à 300 mètres, pour, évidemment, symboliquement, faire cette descente des Champs-Élysées avec le monsieur de Champs-Élysées. Voilà, c'était super et c'est vraiment un grand moment pour moi. Ça a été un vrai bonheur, cette séquence.
Je vais prendre quelques secondes parce que, moi, il y a un grand monsieur de la télévision qui est journaliste.
Et peut-être qui fait pas... le 13h sur TF1.
Voilà.
Oui.
Peut-être pas
oui.
journaliste auto, mais...
Monsieur Pernaud.
Mais que j'aime particulièrement parce qu'il est dans la vie des gens, que j'aime particulièrement sans le connaître, parce que je pense qu'on a l'impression qu'il déjeune dans notre salon tous les midis quand on allume la télé.
Bah, ce monsieur,
Jean-Pierre Pernaud fait partie pour moi de ces journalistes qui aiment encore l'auto et qui racontent la France et qui racontent la vie des gens
absolument.
De nous qui sommes sur le territoire.
Absolument, et je vais vous donner un scoop.
Ah,
voilà.
C'est pas vrai.
J'ai eu Jean-Pierre au téléphone il y a quelques mois. Et il m'a promis qu'il viendrait dans Vintage Mechanic.
Ah, cool.
Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi un très bon souvenir.
Et nous, il faut qu'on l'invite sur sa roue, là.
Ouais, ouais. Alors, moi, mon souci, c'est ce que c'est, François. Ouais. C'est que Jean-Pierre Pernaud est un type que je rêve de rencontrer. Ouais. Mais j'ai presque le trac. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Qu'un type qui est capable d'avoir une carrière aussi longue et belle et qui est aussi apprécié des Français. Mais tu te dis, comment il fait? Ben, comment il fait? C'est simple. Il parle aux gens. Et ben, ce que tu fais avec tes émissions d'automobile,
c'est
pareil. Si tu as été le meilleur journaliste de l'année, c'est parce que quand je te vois dans la vie pour la première fois aujourd'hui et qu'on te voit dans les émissions, il n'y a même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette.
Personne. Pierre, tu peux me faire confiance. Tu sais que je ne suis entouré que de gens bienveillants et chouettes. Donc quand je ramène des gens que je connais, c'est qu'ils sont super, sinon je ne les invite pas.
Oui, ça fait du bien.
Hein, on aime bien.
Ouais.
Voilà. Il roule en quoi, monsieur François Alain, actuellement?
Alors, tous les jours, je vais être très honnête.
Étant
quasi parisien, parce que j'habite en très proche banlieue, première couronne,
je ne
roule pratiquement qu'en deux roues. Parce qu'il n'y a plus le choix.
Et en week-end?
Alors en week-end, je sors mes petites voitures de collection, bien sûr.
Oh,
j'ai des goûts assez modestes. Hein. C'est des voitures populaires des années 60 pour la plupart des choses. Parce que je crois que la plupart des collectionneurs commencent par collectionner les voitures de leur enfance. Réaction logique. Donc, bien sûr. Il y a une Dodoche, il y a une Fiat 500, il y a une. Bien sûr, c'est ce genre de voiture. J'ai une DS, j'ai des tas de voitures qui correspondent aux années 60. J'ai un petit faible pour une marque allemande de voitures un peu sportives qui commence par un P.
Et qui se termine par un CHE.
Voilà.
Donc, Lada, c'est vrai que j'aime. Fiat Multipla, non, c'est pas ça, non. Je ne sais pas.
Non, c'est vrai que j'ai toujours adoré les 356 et les premières 911, quelque chose, ça a toujours été mon kiff quand j'étais môme, c'est clair. Mais sinon, à part cette marque-là qui est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est vrai que je suis très branché, voitures françaises et italiennes et anglaises et allemandes, populaires des années 60-70.
Alors moi, je suis en train de préparer, je sais pas si c'est un bon plan, mais je suis en train de préparer mon véhicule de collection de demain.
Ouais. Ah oui, c'est-à-dire joli.
C'est-à-dire que ma New Beetle, puisque j'ai pas de coccinelle, même si je suis fan de la Cox, avec mon fils hein, d'ailleurs, cette New Beetle, on essaie de tout faire pour la préserver, bonne ou mauvaise idée?
C'est évidemment que c'est une bonne idée, bien sûr. De toute manière, il faut collectionner ce qu'on aime, sans se poser de questions. Je veux dire, il est logique aujourd'hui, moi là, je roule dans un... Alors si, j'ai une voiture de, entre guillemets, tous les jours, mais que j'utilise quasiment pas dans Paris, c'est uniquement quand je fais des tournages un peu à l'extérieur de Paris, qui est une Mini. Alors c'est pas une Mini des années 60, c'est une Mini des années 2000, mais première génération de la deuxième vague de Mini, et c'est déjà un Youngtimer, bien sûr. Donc les Youngtimers sont... Il est logique aujourd'hui que quelqu'un de 20 ans ou de 25 ans s'intéresse lui aussi aux voitures de son enfance. Et les voitures de son enfance, c'est pas des 403. C'est des voitures quasiment d'aujourd'hui.
C'est quoi ta Madeleine ta voiture,
de Proust.
Ta voiture que tu places au-dessus de tout et qui parle au cœur.
Le paradoxe, c'est que j'en ai pas dans le sens où j'adore plein de choses. J'ai des goûts très 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 variés. Et donc j'adore le style italien des années 60. Je trouve que toute l'époque Pininfarina et tout ça des années 60, que ce soit pour Ferrari, Peugeot, Fiat, j'adore. Je trouve que c'est magnifique. C'est un très très beau dessin. J'ai toujours eu un faible pour les petites 356 cabriolets, roadsters, speedsters, parce que je trouve que c'est juste un galet. Voilà, je trouve que c'est pur, c'est simple. Voilà, j'adore.
Que pense François Alain, qui est notre invité ce matin sur Sud Radio, des voitures électriques qui arrivent, des nouvelles formes de véhicules, de la voiture d'aujourd'hui et de demain?
Alors moi, je pense qu'il faut pas... évidemment, dans l'univers de la voiture ancienne, il y a des gens qui sont un petit peu sectaires, mais c'est pas, je dis pas ça méchamment, mais je pense qu'il faut, raisonner vraiment en séparant justement le passé et le présent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la voiture d'aujourd'hui, elle est très technologique, elle est très sûre, elle est formidable, quelque part. Mais elle peut être effectivement électrique, hybride, il y a plein de solutions. L'électrique n'est pas la solution, c'est une des solutions, c'est évident. Le rétrofit, là, qui commence à pointer le bout de son nez, peut être aussi, à mon avis, une solution astucieuse. J'ai fait un essai pendant deux jours d'une deux chevaux électrifiée là, par le deux chevaux Mairie Club de Cassis, et sincèrement, je suis allé avec... Bon, je suis allé un peu à reculons, je suis allé en me disant, bon, je vais leur faire plaisir, c'est des gens que j'aime beaucoup, je vais leur faire plaisir.
Ouais.
Et il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, puisqu'au bout de deux jours, bah, je suis reparti en me disant, bah, finalement, c'est quand même pas mal. Alors, autant je ne suis pas du tout pour l'électrification de voitures type 911 ou Jaguar, parce que ça n'a pas de sens. Parce que quand c'est des voitures bâties autour d'un moteur,
ouais,
ça n'a pas de sens.
C'est ça.
Mais quand c'est des petites voitures populaires... qui effectivement peuvent être des voitures de quasi tous les jours, et que la motorisation d'origine est sympa, mais c'est pas non plus le cœur de la voiture, je pense qu'effectivement, passer à l'électrique une Fiat 500 ou une 4L ou une Dodge, bah finalement, le résultat, il est pas si mal.
Non, puis au contraire, je trouve ça presque symboliquement extraordinaire, voilà, dans le sens où tu roules dans un outil qui est hors du commun.
Ben oui.
On va te voir passer dans deux chevaux qui fait pas de bruit, alors qu'on entend tous le moteur de la deux chevaux. Hein,
il y a certaines voitures qui feraient mieux d'avoir un moteur électrique. Hein. Ouais, DS3, elle aurait été mieux avec un moteur électrique. Je serais jamais tombé en panne 15 fois sur le bord de la route.
Bon, mais Loulou du service après-vente de chez DS, vous n'avez pas compris, il va falloir quelque chose.
Non, mais je suis colère. Mais bon, bref. Dites-moi, on a parlé de l'émission de jeudi soir.
Ouais.
Pour les 50 ans de la SM de Citroën, c'est quoi l'avenir après? Il y a de gros projets, il y a de beaux rendez-vous à nous donner.
Je suppose que Vintage Mécanique va continuer, bien sûr.
Vous avez déjà commencé à travailler sur les programmes.
Bien
sûr.
Il y a des road trips qui sont en cours de préparation. Et puis moi, je suis toujours. Moi, je suis quelqu'un de pluriel. J'aime plein de choses. J'aime la presse écrite, j'aime l'édition. Donc il y a des tas de choses que j'ai pas forcément le temps de faire, mais que j'aimerais bien faire peut-être à nouveau. Donc il y a des choses qui peuvent se produire. Il y a aussi d'autres chaînes de télé ou d'autres programmes qui sont dans les tuyaux, bien évidemment. Mais Vintage reste évidemment l'émission centrale dans ma vie depuis 4 ans, c'est clair.
Et puisqu'on parlait de... Tu sais, on avait reçu les livres avec François Alain, livre sur la 203, entre autres, qui est toujours édité. La 204, pardon, toujours édité.
Bien sûr.
Il y en a un deuxième aussi.
Il y en a plusieurs. Là, j'ai écrit aussi sur des voitures qui correspondent à ce que j'aime. De chevaux, Méhari, 911. Enfin, j'ai fait des bouquins sur les voitures que je connais.
Tiens, tu vois, la Méhari, je préfère la rétrofiter en électrique, mais avoir la Méhari de base, que la nouvelle qui est sortie, qui pour moi ne présente pas un grand intérêt.
Ah bah pour moi, c'est une autre voiture, c'est autre chose.
C'est une autre voiture, j'avais pas envie de voir un relooking, je veux une Méhari.
Bien sûr. Mais j'insiste vraiment sur le fait que l'électrique, c'est une des solutions. Il ne faut pas jeter tout d'un bloc. Je pense que ça n'est pas la solution, bien évidemment, parce que d'ailleurs, on ne peut pas en capacité fournir tout, et puis il y a aussi un problème de recyclage, etc. C'est une des solutions, notamment pour de l'urbain ou vraiment intense, mais voilà, je pense qu'il faut être équilibré, considérer que l'hybride aussi, c'est dans plein de cas de figure intelligent, et ça n'empêche pas la voiture ancienne d'exister, au contraire.
Et c'est ça surtout, oui, exactement.
Et puis je rappellerai quand même que sur la route, moi je me souviens d'une fois, je revenais d'Angers avec mes loulous, et puis d'un seul coup, dans un petit village, eh bien on voit quoi? On voit une coccinelle avec le numéro 53, toute blanche, avec les couleurs. Et tu te souviens, Mathieu, hein, il y a le sourire qui arrive.
Il y a plus le sourire là.
Mes enfants m'ont regardé en disant s'il te plaît papa, on s'arrête. Ouais. Et on s'est arrêté pour faire une photo à côté de la voiture. Il y avait le propriétaire qui était de l'autre côté de la rue en train de prendre son petit café.
Ouais.
Et je lui ai dit oh pardon. Et il était extrêmement heureux de voir deux enfants réclamer cette photo à côté de cette voiture mythique. C'est ça aussi l'automobile, c'est aussi du bonheur et du partage.
Merci beaucoup François Alain. Et puis vous savez, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio et dans Ça Roule en particulier, parce que moi perso je vous adore et je crois que toute l'équipe aussi.
Merci les amis.
Ceux qui écoutent aussi. François Alain qui vous retrouvez donc ce jeudi soir sur RMC Découverte à 20h50 avec la spéciale sur les 50 ans de la SM de chez Citroën. Maintenant, est-ce que ça va nous coûter cher le carburant pour conclure, Mister
Gaspard.
Sud Radio.
Ça roule.
La minute qui carbure.
Eh bien non, c'est la bonne nouvelle.
Eh oui, plutôt des bonnes nouvelles hein, cette semaine. Le sans-plomb 98 baisse de 2,2 centimes par litre avec une moyenne d'un euro à 53. Pareil pour le sans-plomb 95 avec une moyenne d'un euro à 46. Et si vous roulez au diesel, c'est à peu près aussi la même baisse avec une moyenne par litre d'un euro à 37.
Et comme il fait beau un petit peu sur certaines villes du territoire et que l'essence n'est pas chère, mais moi je vous propose quoi ? C'est d'aller faire un petit tour.
En voiture.
En voiture.
D'aller vous promener.
Bon, c'est moi qui conduis.
Merci à tous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À suivre, c'est l'ami Alain Marty et son rendez-vous Invino. C'est sur Sud Radio jusqu'à 13h.